les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Alexandre Marlier, Tilman Villette.
Alors aujourd'hui, on va parler d'une série de la BBC, mais une ancienne série des années 80, Les Tripodes.
Eh oui, Les Tripodes est une série de 1984, produite et diffusée donc sur la BBC. Il s'agit de l'adaptation d'une trilogie de John Christopher. La série compte deux saisons, la première de 13 épisodes de 25 minutes et la seconde de 12. La fiction a été diffusée à partir du 15 septembre 1984 sur la BBC, en 85 en France et en 86 en Suède et en Allemagne de l'Ouest à l'époque. Une troisième saison était prévue, mais n'a jamais vu le jour, la série n'a jamais été rediffusée depuis. Tripod a été produite par Richard Bates, qui rêvait de la faire depuis 15 ans. C'est Alok Rowe qui a adapté le scénario. Christopher Barry, le réalisateur de Doctor Who à l'époque, a réalisé la première saison et Graham Tixton la seconde. Pour incarner les trois héros, la chaîne a choisi des acteurs débutants, John Shackley et Will Parker, Jim Baker et Henry Parker, et Terry Seals et Jean-Paul. Aucun des trois n'a souhaité continuer dans le métier ensuite, même si beaucoup de personnes ont reconnu notamment le talent naissant de Jim Baker. Nous sommes donc en 2089 et pourtant, quand on regarde le mode de vie des humains, on dirait le 19e siècle. L'homme vit sans technologie, sans pétrole, sans électricité, sans ordinateur, sans voiture. La planète est dirigée par les tripodes, des créatures robotisées gigantesques. Grâce à eux, l'homme ne connaît plus la maladie ni la guerre, mais c'est peut-être au prix de sa liberté. Pour nous en parler, Sarah Sepulcre.
Bonjour.
Évidemment, Sarah, on est directement intrigué par ces tripodes. Qui sont-ils? À l'image, ils font fort penser aux extraterrestres de la Guerre des Mondes, non?
Eh ben oui, c'est vrai. La Guerre des Mondes, c'est H.G. Wells adapté plusieurs fois au cinéma, dont récemment d'ailleurs avec Tom Cruise, si je me souviens bien, dans le rôle principal. Et effectivement, pour ceux qui voudraient visualiser ce dont je parle aujourd'hui, eh bien, repensez à ce film, parce qu'il ressemble effectivement beaucoup à ça. Alors, les tripodes, ce sont des véhicules. Et les extraterrestres qui conduisent ces véhicules, on ne les voit jamais pour la bonne raison qu'en fait, ils ne supportent pas l'air de la Terre. Dans le livre de H.G. Wells, c'est parce que les gens qui sont dans les tripodes, en fait, sont malades à cause de virus ou de bactéries, je ne me souviens plus très bien, qui sont dans l'air terrestre. Mais c'est un peu pareil pour les tripodes, c'est parce qu'en fait, les extraterrestres n'ont pas la même atmosphère sur leur planète de départ et donc ils doivent être dans ces véhicules. Et on ne les voit jamais, en tout cas pas très souvent dans la première saison, on ne voit juste que ces tripodes et on ne sait pas très bien qui est là-dedans et les êtres humains ne savent pas que ce sont des véhicules.
La filiation avec l'œuvre d'H.G. Wells est quand même directement marquée et stipulée dans le postulat de la série.
Alors ce qui est drôle, c'est que non. John Christopher, qui est l'écrivain qui a écrit les livres dès qu'elles sont adaptées, ces épisodes, dit qu'en fait, il ne s'en était pas tout de suite rendu compte, mais qu'effectivement, La Guerre des Mondes, il l'avait lu quand il était petit, et il dit effectivement, j'ai inconsciemment volé cette idée, et puis quand je me suis rendu compte de la chose, ben alors j'ai marqué effectivement l'emprunt directement. En gros, pour ceux qui n'ont jamais vu, hein, c'est une espèce d'habitacle un peu ovale avec donc trois grands pieds. Il y a une ligne de lumière verte sur chacun d'entre eux. Ces trois jambes sont effectivement articulées. Ils font à peu près une centaine de mètres de haut. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. On ne voit jamais l'intérieur de cette tripode et on ne le verra jamais dans toute la saison. Les êtres humains, comme je vous l'ai dit, n'ont jamais vu non plus l'intérieur de ces tripodes. En fait, si, durant un rite initiatique dont je vous parlerai tout à l'heure, mais ils ne s'en souviennent plus du tout.
Et à l'image, ça donne quoi? On est plus dans le gendarme et les extraterrestres ou dans V?
Alors, on est plutôt dans V, mais c'est vrai que les effets spéciaux, et ça je vous en reparlerai, ont assez mal vieilli, mais je veux dire, si on oublie un peu cette question de vieillesse de l'image, c'est assez convaincant.
Qu'on le remet dans son époque.
Oui, voilà. L'effet est assez impressionnant d'ailleurs, par rapport au paysage et par rapport aux maisons. Alors, c'est d'autant plus impressionnant qu'on est face à une campagne et face à la ruralité. Évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tripodes? En fait, ce sont des extraterrestres originaires de Trion, une planète lointaine. On ne sait pas très très bien pourquoi ils sont là. On se rend juste compte petit à petit qu'effectivement, ils ont plutôt envie d'envahir la Terre. Ils sont devenus maîtres de la Terre. Alors, au début, on entend un discours très très louangeur sur le fait qu'ils ont sauvé l'homme de la maladie, de la guerre, etc. Mais en fait, c'est pas si net que ça. On se rend compte qu'à 16 ans, chaque humain subit ce qu'en anglais, ils appellent le capping. Parce que c'est vrai que les DVD sont en anglais et ils n'ont pas encore été sortis en français. En fait, c'est une espèce de de mise de calotte. La traduction en français, c'est calotte. Un tripode arrive, prend tous les jeunes qui ont 16 ans, les emmène à l'intérieur du tripode. Quelques secondes après, il redescend. Et en fait, il a un triangle en métal qui est fixé sur sa tête, qu'on ne voit pas quand les cheveux ont repoussé, évidemment. Les êtres humains, quand ils sont enfants avant 16 ans, sont comme tous les êtres humains, joueurs, rêveurs, drôles, artistes, certains d'entre eux romantiques ou... Après 16 ans et après ce rite, tout le monde est obéissant, ne se pose plus aucune de questions, c'est donc un réel lavage de cerveau qui se déroule à 16 ans. Mais comme ils sont tous devenus très obéissants, ils trouvent ça très bien, ils trouvent que c'est l'accession à l'âge adulte.
Je vais peut-être déflorer l'intrigue en te posant cette question, mais quel est l'intérêt pour les extraterrestres ?
Alors l'intérêt, c'est qu'on est face à une vraie dystopie. Patrick Giger, il dit qu'une dystopie, c'est quoi ? C'est un univers science-fictionnel dans lequel, en apparence, on a le bonheur absolu, l'ordre, l'humanité qui a répondu à tous ces grands problèmes, la maladie, etc., qui est heureux, qui vit dans des villes bien structurées, etc. Mais en fait, c'est un monde inhumain, un monde dans lequel il n'y a plus de sentiments, plus de spontanéité, où il n'y a plus non plus de changement, puisque peut-être que la spontanéité amène justement le changement. On est donc face à une véritable dictature.
Et donc, ils ne font pas ça parce que les humains, comme dans V, sont leur nourriture, ou parce qu'il y a un but, parce que les humains travaillent pour les extraterrestres, pour leur extraire un minerai particulier, comme on a pu voir dans d'autres histoires.
C'est pas si simple que ça, et de toute façon, la série n'y répond pas tout de suite. Ça, c'est dans la saison 2, je vous en parlais tantôt. Dans la saison 1, on ne sait pas. On sait juste que, apparemment, l'être humain vit heureux, etc., et que, dans les faits, l'être humain est en fait annihilé, puisque c'est le cas.
Ce qui me marque dans le résumé que tu viens de faire, c'est que, semble-t-il, c'était une préoccupation un peu de l'époque, ce type de société totalitaire où l'homme est asservi. On le voit dans le film de George Lucas, THX, on le voit aussi dans l'adaptation qu'il y a eu de 1984. Semble-t-il, les années 80 étaient à fond là-dedans.
Alors, il y a plein de choses. Il y a cette idée que la science-fiction essaye de voir des mondes futurs, et pendant tout un temps, le monde futur était idyllique. Pendant tout un temps, mais la dystopie en littérature, ça date du 19e siècle, hein, donc c'est pas... Montre qu'effectivement, à force de vouloir tout réguler, ben, l'être humain tombe dans un monde qui tourne sur lui-même et où, comme dans 1984 de Orwell, il n'y a même plus de dirigeants. Le système fonctionne tout seul. Plus de changement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est même une régression, puisque l'être humain n'a plus aucune technologie qu'il avait. On est pourtant en 2089. Il n'y a plus d'inventivité, il n'y a plus de scientifiques, il n'y a plus de technologie. Et parfois, ça va jusqu'à, ils n'ont plus de lunettes. Alors qu'au 19e siècle, par exemple, c'est des technologies qui existaient. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une véritable opposition entre cette tripode très technologique et le monde des êtres humains qui est redevenu un monde du 19e siècle et que les tripodes ont complètement annihilé.
Ah, Guillaume.
Come in, my boy. Sit down. You'll take some wine?
Thank you.
Sante.
Eloise was your only daughter?
Yes, she is our only daughter. We are very proud of her today.
But she's been taken away.
Yes, to serve the tripods in their city.
What does it mean to serve them?
Was the servants here serve us?
She was very happy. You saw that, Will.
The tripods do not come every year to the tournament. It is only usual at the new year for the capping.
But you'll never see her again.
You're surely not afraid for Eloise?
She's gone. Just as if she'd drowned.
How can you say that?
We do not understand the tripods and all their ways, it is true. But they give us their trust. They give us freedom.
We were to be married. She was to be my wife. I was to be part of the family.
You still are part of us, and always will be.
Be happy with us, my boy. Tonight at dinner, you will sit at our side.
Sir, I ask permission to miss the banquet.
No! You, you have much to learn, and it is important to begin the learning now. The banquet to others, our guests, it is a pleasure, but to us, it is a duty. A duty not to be sad.
We must set the example.
Yes, we must.
Alors évidemment, on ne suit pas que ces tripodes métalliques, point. L'histoire, elle est complètement emmenée par trois jeunes. Ça fait très fort penser au Seigneur des Anneaux, ça quand même. On se rend compte qu'on est vraiment dans une certaine vague de science-fiction. Alors Will Parker, il se pose beaucoup de questions sur justement cette cérémonie de la mise de la calotte de ce triangle. Il sait que dans un an, ça va être son tour et ça l'amuse pas du tout parce qu'il s'est rendu compte que ses amis qui étaient déjà passés par là, du jour au lendemain, étaient devenus des personnages pas drôles du tout, qui se posaient plus de questions et ça l'ennuyait. Il rencontre un vagabond qui lui parle d'hommes libres et qui lui parle d'une certaine montagne blanche dans laquelle les hommes libres se sont réfugiés et lui montre une montre. Et Will est complètement subjugué par cette montre et le vagabond lui dit mais c'est l'homme qui a fait ça, c'est pas les tripodes. Et donc là petit à petit il commence à se rendre compte que peut-être que l'homme n'est pas simplement des êtres ruraux et sans intérêt tels qu'il les rencontre. La plupart des gens vagabonds en existent, on ne sait pas très bien qui ils sont, on ne sait pas s'ils ont reçu le triangle ou pas, on sait juste qu'ils sont hors du système et donc on ne saura ça jamais véritablement. Il décide donc de partir vers cette montagne blanche, son cousin qui s'appelle Henri l'entend partir et vient avec lui et donc ils partent à pied vers la mer et puis traversent la Manche, ils arrivent en France, ils se font très vite arrêter par des gardes, les gardes noirs comme on les appelle, parce que c'est absolument pas normal dans un monde complètement régulé et obéissant d'avoir des gens qui se baladent. Ils passent pas inaperçus du tout dans aucun des endroits où ils vont. Et donc ils se font arrêter. Et un adolescent qui leur amène de la nourriture de la taverne à côté commence à discuter avec eux parce que lui, il a des lunettes. Il s'est bricolé des lunettes parce qu'il a une mauvaise vue. Et donc les autres sont intrigués par ça. Et donc ils parlent de ce rite initiatique. Et puis ils se rendent compte qu'en fait, ils ont les mêmes questions et ils les aident à s'enfuir. Et donc très vite, on a ce trio. Donc Will qui est un peu le rebelle, Henri qui est un peu l'homme d'action. Et puis Jean-Paul, parce que ça c'est le français, que tout le monde appelle Bean Paul en anglais. Donc c'est son surnom, j'imagine, parce que c'est plus facile à dire en anglais que Jean-Paul, qui est un peu le cerveau. La saison 1, c'est ce périple vers la montagne blanche qui se révèle être le Mont Blanc, évidemment, où les hommes libres existent effectivement. Et donc, on est vraiment dans une série de quêtes avec des aventures, des dangers, des rencontres. Alors, les dangers sont jamais très, très graves. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une série des années 80, par exemple. C'est surtout des hommes bourgeois qui vivent dans des villes, qui se rendent compte qu'ils passent, qui essayent de les arrêter, ce genre de choses-là. Alors, les rencontres, on a évidemment des filles, par exemple, qui croisent par-ci, par-là. Et donc, c'est est-ce que je continue ma quête? Ou est-ce que je vais moi aussi faire ce rite initiatique et vivre avec cette jeune demoiselle bien tranquille, par exemple. Puis petit à petit, ils glanent des informations aussi sur les tripodes, ça évidemment. Ils se rendent compte que l'homme a effectivement connu une civilisation très importante. Ils passent par Paris, qui est une ville abandonnée, et ils se rendent compte que l'homme a pu construire des ponts, qu'il existait des magasins avec des casseroles, par exemple. Ils ne savent pas très bien ce que c'est. Et donc, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont toujours cru, que l'être humain n'était pas intelligent, ce n'était pas vrai. La saison 1 se termine sur la découverte du camp des hommes libres au Mont Blanc.
Donc on est clairement ici dans une série qui, outre la science-fiction, parle du rite initiatique de ces trois jeunes en fait.
Non, ça parle surtout de la non-envie de le faire, parce que ce rite, ça représente surtout la mise de la calotte, ça représente surtout la dictature.
Mais quand je parle du rite initiatique, c'est le rite initiatique qui passe par eux-mêmes en traversant le pays et en allant jusqu'au Mont Blanc, c'est leur épreuve initiatique plutôt que de passer chez les tripodes.
C'est leur recherche et leur quête de cette liberté effectivement qui mène en fait cette série. Or dans la saison 2, le but de cette saison, c'est d'entrer dans la ville des tripodes, parce que les tripodes ont une ville non loin du Mont Blanc, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et essayer de glaner des informations pour les combattre. Pour y entrer, c'est simple, il suffit d'être gagnant d'un certain jeu qui ressemble à des Jeux Olympiques. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de moments dans la vie des êtres humains, par exemple s'ils font des jeux, des joutes, certains festivals, les gagnants sont emmenés par les tripodes pour aller dans cette ville et c'est vu comme quelque chose de super, un accomplissement. Ils ne reviennent jamais, les gens qui vont là, mais c'est vu comme un accomplissement, donc ils vont participer à ces jeux. Et deux, Will et Fritz, un nouveau personnage, vont y parvenir et vont donc être emmenés dans cette ville dans laquelle on rencontre les tripodes pour la première fois, j'allais dire en chair et en os, mais oui, quasiment. C'est-à-dire que là, on n'est plus face aux tripodes, les véhicules, mais on est face à ce qui s'appelle des maîtres. Et en fait, c'est une version organique du tripode, si vous voulez. C'est aussi une bestiole qui a trois pattes, qui est un peu plus haute qu'un être humain normal, qui semble être faite de matière organique, on ne sait pas très bien quoi. En fait, on voit surtout qu'ils sont produits avec du papier à bulles, mais ça, c'est les effets spéciaux de l'époque. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Quand ils arrivent, ils sont choisis par un maître. Et suivant l'affectation de ce maître, ils vont devenir esclaves de ce maître, et donc faire des travaux différents selon que le maître est un intellectuel ou celui qui s'occupe des mines. Will, lui, est chez un intellectuel qui doit analyser toutes les choses de la Terre pour voir l'intérêt que ça peut avoir pour la civilisation tripode. Il se rend compte que Will a probablement été mal encaloté, j'ai pas très bien comment dire, enfin, que son rite s'est très mal passé parce qu'il pose trop de questions, mais ça l'amuse beaucoup et donc il ne le dénonce pas. Fritz, lui, devient esclave dans une sorte de mine, on ne sait pas très bien à quoi elle sert. Petit à petit, il va aller chez ce qu'ils appellent la centrale électrique, parce qu'en fait, les tripodes ont récupéré l'énergie électrique des êtres humains et la détournent à leur avantage. Et donc, cette saison, c'est la ville, comment elle fonctionne, comment fonctionne l'univers des tripodes. On apprend qu'il y a donc effectivement ses maîtres, et qu'au-dessus d'eux, il y a ce qu'ils appellent les cognos, qui sont en fait des maîtres, mais dont on a divisé le corps et l'esprit, et qui sont des espèces d'identités super intelligentes, qui en fait amalgament les connaissances, mais on ne sait pas très bien pourquoi, et ça, on ne le saura pas en tout cas dans la saison 2. Alors le but du jeu, c'est évidemment de gagner des informations, et puis de sortir pour pouvoir les ramener aux hommes libres, ce que Will parvient à faire. Il parvient à sortir de la ville, et Fritz décide d'y rester pour essayer de glaner encore un petit peu plus d'informations. Il s'enfuit et se retrouve avec Jean-Paul et rentre vers le camp qui a été en fait détruit. C'est comme ça que se termine la série en tant que telle. Donc vous l'avez bien compris, tout à l'heure on parlait d'une trilogie en livre. On n'a donc pas une trilogie et pas de saison 3 pour la série. On ne le sait pas, mais dans les livres en fait certains ont survécu. Les êtres humains vont pouvoir petit à petit glaner des informations et se retourner contre les tripodes, parce qu'on a appris pendant ces saisons que les tripodes en fait vont envahir pour toujours la Terre et remplacer l'atmosphère par l'atmosphère qu'ils peuvent respirer, et que ça c'est à l'échelle de 4 ans. Et donc dans la suite des livres, les êtres humains parviennent petit à petit à attaquer les tripodes, à trouver leurs points faibles, notamment ils ne supportent pas l'alcool, et donc comme les tripodes dépendent fortement de l'eau, il suffit de mélanger de l'alcool à l'eau des villes, et les villes sont toutes construites sur des fleuves pour pouvoir s'en débarrasser.
Pimple. I think a tripod is only a sort of carriage.
No, it's a living thing. We've seen them walking, trampling.
They have arms.
I don't think so. I think it's, well, like this boat was. Or the carriages we saw in Paris. What do you think it carries, then?
I don't know.
You mean that each tripod has a driver? Of flesh and blood? Of human flesh and blood?
If a tripod attacks somebody, took him inside, why would it let him go?
Well, they'd be capped.
No.
You mean you know someone who has been inside a tripod?
Who?
Me.
You're making it up.
I wish I was. I was riding away from the chateau and this tripod almost stepped on me. It grabbed me. I felt winded and shocked, I remember that. And I remember seeing the panel underneath slide open. Just for a moment, I thought I saw a shape.
Did you see inside?
If I did, I can't remember. I woke up on the ground. It had been dark and now it was sunny. I felt sort of dazed.
Well, I bet the horse threw you and you hit your head.
No!
I
just don't know.
What you say is not impossible, Will. It had not occurred to me that perhaps humans drive the tripods. Anyway, we shall talk of it in the morning. You should sleep.
Et sinon, Sarah, qu'est-ce que tu en as pensé des tripodes ?
Alors aujourd'hui, c'est un peu difficile quand même. Comme toutes les séries qui datent des années 80, parfois elles sont plus difficiles à regarder que celles d'avant. C'est surtout très lent. La moitié des épisodes, on peut aujourd'hui facilement s'en passer. Parce qu'on se rend compte que dans les séries précédemment, on prend beaucoup de temps à décrire les paysages, à passer la caméra dessus. Ou alors, par exemple, ils sont dans une ferme en France, à un moment ils font les vendanges et on voit les vendanges pendant des heures et des heures, quoi. C'est abominable. Ce qui est pas très bon non plus, c'est le jeu des acteurs. Alors, certains dans le documentaire qui accompagne les DVD disent que cette naïveté, donc j'en ai conclu que, bon, leur amateurisme, joue pour eux. Moi, j'en suis pas complètement certaine. Par contre, je suis assez d'accord avec cette idée que Jim Baker, justement, celui qui jouait Henry, s'améliore petit à petit au fil des épisodes. Les autres, je suis pas complètement certaine. Il y a aussi des trucs un peu bizarroïdes, genre, ils sont donc anglais, mais ils voyagent en France, et normalement, les Français parlent français, on est bien d'accord. On trouve des trucs de scénario pour les faire parler anglais, mais tous parlent français avec un accent anglais abominable. Donc on se rend compte que c'est absolument pas des acteurs français qui ont été engagés. Maintenant, ça fait quand même un peu bizarre tout de même. Les effets spéciaux sont pas toujours bien. Les costumes, bon, si vous revoyez les anciennes séries de science-fiction, c'est toujours un peu dur, hein, les costumes, on est bien d'accord. Les décors aussi. Mais s'arrêter à dire ça, ça n'est vraiment pas rendre justice à cette série, parce que c'est, il faut le savoir, la première série avec autant d'effets spéciaux sur la BBC. C'était tellement coûteux que pour la première saison, ils ont eu droit à 60 secondes d'effets spéciaux par épisode. Ce qui explique que durant la première saison, on oublie un petit peu les tripodes. On les voit effectivement dans l'horizon, on voit parfois dans certaines villes qu'on a un pied de tripode qui est au milieu de la place du village, mais ils ne pouvaient pas se permettre de faire plus. Alors ce qui est absolument hilarant, c'est que dans ce DVD, le producteur raconte qu'il existait deux machines capables de faire ces effets spéciaux dans toute l'Angleterre à l'époque. dont une qui appartenait à la BBC et qui appartenait au service météo. Elle était utilisée pour faire les petits nuages et les petites animations météorologiques du bulletin météo. Et donc, il n'était pas question qu'il l'utilise pour faire une fiction, et donc il devait travailler la nuit. Et ils étaient jetés hors de la pièce quand Monsieur Météo revenait le matin pour faire son bulletin. Donc il faut quand même se remettre dans l'époque. Résultat, ben donc, comme je vous dis, la saison 1, elle manque un petit peu. On s'intéresse beaucoup aux garçons, à des sous-histoires. Ils prennent beaucoup de temps pour conter Fleurette à des demoiselles, par exemple, ce qui est un peu dommage. L'auteur des livres, John Christopher, dit que c'est la seule adaptation qu'il connaît où on ajoute des choses plutôt que des enlever. Dit Harry Potter, etc. On enlève le plus qu'on peut, mais là on ajoute parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire autrement. Ils trouvent d'ailleurs que l'adaptation n'est pas mauvaise. Il y a quand même eu 9 millions de téléspectateurs qui ont suivi la saison 1 le samedi à 17h30. C'est vraiment pas mal du tout. Résultat, il y a une saison 2 avec plus de budget et plus d'effets spéciaux. Et c'est nécessaire parce que comme on est dans la ville des Tripodes, là on ne peut pas faire une ville des Tripodes qui ressemble à quelque chose qu'on connaît nous. Ils ont d'ailleurs construit une ville en miniature, mais miniature qui faisait la taille d'un studio avec des effets visuels laser. Il y a un moment une attaque de nuit des Tripodes qui nous fait évidemment sourire maintenant, mais qui à l'époque n'a pas été facile à produire. D'autant que par exemple, ils voulaient produire une ville toujours bruyante et pleine de gens avec 20 figurants. C'est évidemment pas simple. Donc vous voyez qu'il y avait un peu des contraintes de production qui n'étaient pas faciles. Pour la saison 2, ITV riposte. Se rend compte qu'il y a beaucoup trop de gens qui regardent les Tripodes, juste après Doctor Who, de toute façon en plus. Et donc programme à la fois un jeu célèbre et une série américaine, qui est donc pas chère du tout parce qu'il suffit de l'acheter. Résultat, la BBC, les comptables font les calculs et se rendent compte que c'est pas du tout intéressant pour leur poche. Et c'est pour ça qu'ils annulent la saison 3. Ils l'ont su, les scénaristes et le producteur, en tournant la saison 2, mais ils ont décidé de ne pas changer le scénario. Et donc la fin de la saison 2 est effectivement la fin du livre 2 quand on se retrouve devant ce camp complètement dévasté, et elle se termine par cette phrase qui est « tout ça pour rien » et qui était effectivement pas du tout dans le livre, mais qui était une espèce de remarque. Le producteur, ça faisait 15 ans qu'il essayait d'adapter ce livre pour la télévision, apparemment il a toujours pas avalé aujourd'hui, parce que dans le documentaire qui est fait pour accompagner le DVD, il dit que c'est probablement la chose la plus abominable qui lui est arrivée dans toute sa vie, la fin des Tripodes, qu'il n'a jamais avalé. Et c'est pour ça, et ça c'est intéressant, qu'ils se réjouissaient tous les gens interviewés de la sortie DVD. Parce que cette sortie DVD, en fait, leur a montré que cette série était fort appréciée ou avait beaucoup marqué les jeunes qui l'avaient vue. Un fan club s'est créé 20 ans après la diffusion, qui s'appelait la Ligue des Hommes Libres. Et c'est intéressant parce qu'il faut savoir que cette série n'a jamais été rediffusée nulle part, c'est-à-dire ni en France, ni en Allemagne, et pas non plus en Angleterre. Ça signifie que cette série a marqué les esprits sur une diffusion. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, parce que moi c'est une série que j'ai vue quand j'étais petite et qu'elle m'avait excessivement marquée. Alors marquée, c'est intéressant de voir comment on s'en souvient, parce que par exemple dans la ville ils sont habillés tout en blanc, et moi je me souvenais d'images où le héros était pas du tout habillé en blanc, enfin selon moi il était habillé en brun, donc c'est quand même un peu bizarre. Il y a plein en fait d'épisodes que j'avais amalgamés dans mes souvenirs, ça se passait en même temps et ça ne se passait pas du tout en même temps. Donc c'est intéressant de voir que ça a travaillé pendant des années, mais que je n'ai pas oublié cette série et je m'en souvenais quand même très très bien.
C'est un peu comme quand on revoit Zora Larousse ou Heidi.
Oui, sauf qu'ici c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué, même sur l'histoire, c'est-à-dire que c'est pas une histoire simpliste pour enfants. C'est quand même une histoire qui est assez porteur. Et tout ça en une diffusion.
C'est un effet Madeleine de Proust quand même.
Pas nécessairement, parce que c'est pas non plus une série que j'ai regardée de manière très nostalgique, mais c'est une série qui manifestement a marqué les gens, parce qu'elle a probablement un message, comme on disait tout à l'heure, qui est assez fort, parce que je pense aussi qu'à l'époque on n'était pas habitué aux effets spéciaux, et que les effets spéciaux utilisés c'était pas rien, et qu'aujourd'hui si on la revoit effectivement on peut mesurer tout le fossé qui peut exister avec les effets numériques, mais qui ne doit pas vraiment rougir quoi cette série, alors que Zora Larousse c'est pas tout à fait ce que j'avais dit que c'était pas super. Donc voilà. Pour la petite histoire, un des acteurs est devenu prof, un autre est devenu homme d'affaires et le dernier est devenu camionneur, comme ça vous le saurez. Et pourtant le camionneur, c'est celui que tout le monde trouvait qui jouait assez bien et apparemment ça les inquiète pas plus que ça. Donc si jamais vous vous demandez est-ce que j'achète ou pas les Tripodes, sachez d'abord que le DVD n'existe qu'en anglais, sous-titré en anglais pour les malentendants, donc il n'est pas encore sorti en version française. Et moi je vous dirais ça vaut la peine, mais ça vaut la peine si vous l'avez vu quand vous étiez jeune, parce que voir cette série d'un premier abord aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Par contre, il me semble qu'elle mériterait une réadaptation à l'heure actuelle.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.